Bonjour à tous et je remercie énormément aux organisateurs du colloque. Je vais vous parler sur l'analyse des éléments fondamentaux et d'une loi CAR sur la procréation assistée, une perspective du droit comparé. Dans le contexte de mon projet mémoire, quand on parle de techniques d'assistance médicale à la procréation, on va toucher simplement l'insémination artificielle, et la fécondation in vitro et l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes, et ça, ICSI pour ce nom en anglais. Et on parle aussi des interventions connexes comme la stimulation ovarienne et la maturation in vitro des ovocytes et le diagnostic préimplantatoire. L'adoption d'une loi sur les TAMP a comme but d'établir des mesures juridiques et politiques en accord avec les cultures juridiques et les traits culturels propres de chaque pays. Dans des termes généraux, toute législation est influencée pour les aspects suivants. D'abord, le concept d'éthique. L'éthique établit des barrières à ne pas franchir. Cependant, il est possible d'arriver à un accord sur les barrières, mais pas d'obtenir un consensus universel sur où celles doivent être établies. Après, il y a l'acceptation des principes au niveau social, comme par exemple les avantages futurs versus les inconvénients présents et futurs. L'exercice des droits individuels dans la société, les concepts et le rôle de la famille dans la société, la primauté des intérêts ou bien-être de l'enfant et le respect des valeurs familiales. Après, on a les biens communs et au sens le plus large, donc la législation doit tenir compte des attitudes des individus face au fait d'avoir ou ne pas avoir des enfants et le processus de constitution d'une famille en accord avec la diversité d'opinions qui recèle notre société pluraliste. En plus, on ne peut pas séparer la poursuite des objectifs individuels de ceux de la société tout entière, car la protection du bien général peut parfaitement limiter l'exercice des droits individuels. Et finalement, on a l'idée morale des sociétés, dans le sens d'un consensus social sur ce qui est moralement acceptable dans une société déterminée. Donc, comme principe et valeur d'une législation sur le temps, on a les droits de la personne. Initialement, les droits au libre épanouissement de la personnalité, principalement les droits de fonder une famille, et aussi les droits de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, principalement l'accès aux services de santé et, dans ce contexte, l'accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Après, on a la dignité humaine. On parle essentiellement de bienfaisance, dans le sens de offrir à chaque patiente toute l'information sur les risques et bénéfices des techniques. On parle aussi du principe de précaution. Et avec ce principe, on cherche à mettre en application des techniques dont les effets secondaires ont été suffisamment étudiés et peuvent, si possible, être contrôlés. Le respect à la vie privée, à la vie, principalement envers les embryons surnuméraires. Et finalement, la recherche du bien commun parle de l'obligation de l'État de veiller et à faire interdire toute utilisation des techniques non conformes à l'éthique et à faire instituer des procédures et les mesures nécessaires à la prise de décisions éclairées. Sur le plan du droit international, les gouvernements ne doivent pas chercher une unité d'approche. Donc, principalement pour deux raisons. D'abord, chaque pays vit une réalité spéciale au niveau de l'implémentation des techniques et l'élaboration des politiques. Et deuxièmement, chaque pays a ses propres traditions culturelles, morales, éthiques et juridiques qui ont une influence sur la manière dont les problèmes sont abordés et doivent être réglés. Et donc, on trouve quatre systèmes au niveau international. On trouve un système de liberté qui promeut la liberté de l'individu et la liberté de la recherche. Le meilleur exemple, c'est l'Angleterre. Et à ce moment, à l'Angleterre, tout est possible. Il est possible de créer des embryons pour la recherche. Il n'y a pas de limite pour l'accès aux techniques. Et il est possible de faire des ententes sur maternité et de substitution. On a un système de restriction qui privilège spécialement le respect de la vie humaine. Et le meilleur exemple, c'est l'Allemagne où presque tout est interdit. Donc, la recherche avec des embryons, c'est très contrôlé et il n'y a pas accès à la fécondation post-mortem. Et il y a une restriction spéciale au niveau de la quantité d'embryons à transférer dans chaque cycle de reproduction assistée. On a un système de permission limitée ou de précaution, mais pour des autres personnes, ce sont des systèmes intermédiaires qui essayent de trouver un équilibre entre les droits et les libertés individuelles et le respect de la vie humaine. Et le meilleur exemple, c'est l'Espagne, où il y a des choses qui sont interdites, par exemple la création d'embryons, mais il y a des choses qui sont permises, comme par exemple la fécondation post-mortem. Et on a le système de laisser-faire, où il n'existe pas une législation. Le contexte pour lequel la législation n'existe en ce moment pourrait correspondre à trois raisons. D'abord, une liberté absolue, et deuxième, une absence de contrôle étatique et finalement une interdiction totale. Donc, le meilleur exemple, c'est la Colombie. Dans ce système, malgré les différences, il y a des consensus et des divergences aussi. Dans le consensus, on trouve que tous les systèmes ont des opinions semblables au niveau des conditions de qualité technique et d'assistance médicale à la procréation. Tout le système parle de la création d'une commission de surveillance et contrôle qui va jouer un rôle de conseiller de l'État dans la façon d'aborder la législation ou la façon comme l'État doit légiférer sur les techniques. Un registre des donneurs afin de contrôler principalement la transmission des maladies génétiques. Et on parle aussi du nombre d'embryons à transférer. Généralement, dans la plupart des législations, les nombres, c'est 3 simplement. Et il y a un consensus sur les manipulations interdites. Mais malheureusement, il y a un exemple très particulier, c'est la législation de l'Angleterre qui permet depuis mais de l'année dernière, la création des chimères. Et la création des chimères, c'est simplement faire la fécondation entre, par exemple, un ovule humain et des spermatozoïdes d'un animal, n'importe lequel. Au niveau de la divergence, on a 5 sujets très controversés. D'abord, on a la donation des gamètes et à ce niveau, on parle de 3 problèmes spécifiques. D'abord, la rémunération des donneurs. Deuxième, l'enlèvement de l'anonymat des donneurs. Et finalement, les dons personnalisés. On a aussi la fécondation post-mortem, c'est très controversé. Il y a des législations qui ne permettent pas la fécondation, il y a la législation qui la permet, mais les délais pour accéder au transfert sont différents. Et on parle aussi des destins des embryons surnuméraires, et en ce moment, on doit analyser 3 situations différentes. D'abord, l'adoption des embryons, après, les dons des embryons surnuméraires à la recherche, et finalement, sa destruction. Et en relación par rapport avec le diagnostic préimplantatoire, la problématique se soulève principalement au niveau des bébés médicaments ou bébés du double espoir. Donc, je vais vous parler simplement des deux conflits très spéciaux au niveau technique. D'abord, les techniques offrent aux couples dont l'infertilité a été médicalement établie la possibilité de devenir parents. Mais ces techniques peuvent aussi offrir la même possibilité aux femmes célibataires et aux couples homosexuels. Plusieurs législations, comme par exemple l'Italie, la législation italienne, la législation argentine, la législation française et la législation du Danemark, ont accordé permettre l'accès aux techniques simplement aux couples mariés. La principale justification, c'est que la législation doit protéger la famille dans un contexte traditionnel, père, mère et enfant. Et finalement, on doit protéger aussi l'intérêt de l'enfant à naître. Cependant, on doit prendre en considération que les femmes seules et les couples homosexuels sont titulaires du droit individuel, comme par exemple les droits au libre épanouissement et la personnalité ou les droits à l'accès aux services de santé que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, en vertu de ces droits individuels, on doit faire une analyse sur comment une législation peut permettre l'accès aux techniques ou finalement interdire l'accès des techniques à ces personnes. Trois aspects généraux doivent être considérés. D'abord, les concepts de famille. Et en ce moment, la législation ou les personnes qui travaillent dans l'élaboration de la législation doivent analyser quel type de famille la législation va protéger. Si c'est une famille génétique, si c'est une famille biologique, ou si finalement la législation doit protéger la famille d'affection. Si on prend en considération l'exemple de l'adoption des mineurs, la législation protège en ce moment les liens affectifs. Et cependant, on se pose la question si dans les cas de techniques de procréation assistée, la situation doit être différente. Et dans le livre Épanouissement et la personnalité, la question qui demeure est si les croyances individuelles doivent céder face à des intérêts sociaux qui ont une protection spéciale de l'État. Et si ça c'est le cas, comme peut-on parler du respect pour les droits individuels si la personne concernée ne peut pas choisir selon ses intérêts? Finalement, on parle aussi du respect des droits de l'enfant, principalement les droits à l'égalité et les droits à connaître ses véritables origines biologiques. Malheureusement, la diapo est toute bizarre en ce moment. Mais notre conflit, c'est la fécondation post-mortem. Et généralement, quand un homme quand un homme est intéressé à garder ses gamètes, il peut aller à un centre d'aide à la procréation et demander la conservation des gamètes. Pendant le temps que le déposant est vivant, il peut disposer toujours de ses gamètes, sans aucun problème, sans aucune limitation non plus. Mais dans le moment où le déposant est décédé, on commence à se poser des questions au niveau de la validité de l'entente. Donc, il y a trois options au niveau législatif, au niveau légal. D'abord, il doit primer la volonté du déposant. Donc, si le monsieur a dit « oui, je veux que mes gamètes soient utilisés dans la fécondation de l'ovule de Maria », donc finalement, le centre doit procéder dans ce sens. Mais dans la plupart des cas, le déposant n'a pas donné un consentement clair de qu'est-ce qu'il doit faire le centre après son décès. Donc, en ce cas, on parle de la volonté du bénéficiaire. Donc, Maria peut arriver au centre et dire, regarde, ici, mon époux ou mon copain a laissé des gamètes cryopréservés. Et en ce moment, il est décédé, mais je l'aime beaucoup encore et je veux avoir un enfant de lui. Donc, les saints doivent procéder d'accord à la volonté de la bénéficiaire en ce cas. Mais il y a un conflit aussi parce qu'il y a des législations qui permet au centre à disposer des gamètes après la mort du déposant. Donc, Maria va décider d'aller au centre et le directeur du centre peut lui dire « Je suis vraiment désolée, mais en ce moment, comme votre copain est décédé, les gamètes appartiennent au centre et le centre peut faire avec les gamètes n'importe quoi. » Évidemment, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une position unanime à ce sujet. Et la question qui reste tout le temps, c'est si une analyse semblable peut se faire dans le cas des embryons surnuméraires. Donc, doit primer la volonté des parents, des bénéficiaires, ou on doit privilégier la volonté du centre.